18-19, le magazine.
Et rebonsoir, nous revoici donc pour la deuxième partie de notre émission consacrée à Louis Aragon, journaliste, avec en compagnie de François Échard, secrétaire général de la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet. Et on vous recommande, je le rappelle, les ouvrages Aragon, Un jour un monde, donc qui est une chronique des articles de journaux de Louis Aragon, paru en 2017 aux éditions Delga pour le tome numéro 1 et en 2018 pour le tome numéro 2, qui sont passionnants. Je le recommande en résumé, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Et également Les Lettres françaises et les étoiles, donc, qui sont deux titres de journaux. Donc Les Lettres françaises et les étoiles dans la clandestinité, pardon, édité au Cherche Midi en 2008. Alors, donc, on s'était quitté, François Échard, avec Aragon en 1939 et l'interdiction du journal à grand tirage ce soir, du journal d'opinion à grand tirage ce soir, que dirigeait Louis Aragon. Alors, que se passe-t-il à partir de 1939 ? Comment Louis Aragon va continuer son travail de journaliste ?
Mais avant d'envisager ça, il faudrait quand même que je souligne le fait que la connaissance des derniers textes d'Aragon publiés dans ce soir, tant que le journal paraît, et puis les trois derniers numéros qui n'ont jamais été distribués, qui n'ont jamais été imprimés, mais pour lesquels il a écrit des textes, montrent la responsabilité dans le déclenchement de la guerre de façon claire et indiscutable. L'analyse des textes montre ce qui s'est passé très exactement, le refus des Occidentaux, la France et l'Angleterre, de participer à une coalition militaire contre l'Allemagne, et le fait qu'en vérité, comme Aragon en a obtenu la confirmation auprès d'Alexis Léger, qui était Saint John Perse en littérature, mais dans la vie courante, le secrétaire général du Quai d'Orsay, qu'il a rencontré quelques jours après la signature du pacte germano-soviétique, Léger lui a confirmé qu'on était allé à Moscou pour un simulacre de négociation, car on ne voulait pas de négociation. Et en vérité, le prétendu retournement de situation créé par le pacte germano-soviétique est le résultat de la politique délibérée de la France et de l'Angleterre. Tout le problème qui est posé, c'est... est-ce que Daladier et Chamberlain étaient bien conscients de ce qu'ils faisaient, en totalité ou en partie ? Ça, c'est une affaire à discuter, mais leur responsabilité dans l'affaire et leur culpabilité, même peut-on dire, est directement engagée. Et ces textes-là montrent que, par exemple, lorsque l'Union européenne prétend trouver dans le pacte germano-soviétique l'origine de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a affaire, non pas à une réécriture, mais un travestissement de l'histoire, dans un but intéressé, dans le but de s'exonérer d'une responsabilité qu'il serait quand même de bonne loi de poser sur la table et d'examiner tranquillement pour savoir qui a fait quoi.
Voilà, c'est intéressant, je fais juste une parenthèse, parce que
c'est quelque chose d'important d'actualiser des thèses qui datent maintenant de 70 ans en arrière.
Bien sûr. Alors, cela dit, justement, sur cette question très intéressante, en fait, du pacte germano-soviétique, nous aurons d'ici la fin de l'année une émission spéciale avec un historien sur ces questions-là, parce que c'est assez étonnant, en fait, le ressenti des gens qui connaissent vaguement cela, ont en fait plutôt justement cette vision qui est exprimée par le Parlement européen, qui est en fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est un élément crucial de la victoire. Et c'est présenté comme donc c'est assez intéressant de replacer le contexte réel de ce pacte et de montrer en quoi c'est un élément de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc on aura une émission spéciale là-dessus pour justement montrer un petit peu la réalité de ce que c'est et sortir du cliché.
Je vous invite à inviter vos lecteurs à se pencher dans le journal de l'ambassadeur d'Union soviétique à Londres, c'était Ivan Maïski, qui montre tous les efforts faits par la diplomatie soviétique à Londres et à Paris pour arriver à ce qu'on appelle un pacte de sécurité collective, et successivement toutes les initiatives qu'ils ont prises ont été déboutées par les réponses de non-recevoir de Londres ou de Paris. Voilà. Ça, ce sont des éléments qu'il faut quand même faire entrer en compte quand on prétend examiner ces éléments-là, cette situation-là.
Alors justement,
maintenant,
pour
revenir à la question de ce qu'Aragon a fait après, eh bien écoutez, il a fait la guerre. La guerre, c'est une guerre dans laquelle il a été décoré. Il s'est trouvé en zone sud quand la guerre, les hostilités ont cessé. Et finalement, il s'est retrouvé à Nice, coupé de tout le monde, sauf de Henri Matisse, le peintre, qu'il fréquentait assidûment, jusqu'à ce qu'il retrouve la liaison un peu par hasard avec le Parti communiste et qu'il puisse organiser la résistance à son niveau, c'est-à-dire qu'il rapidement, par ses poèmes naturellement, il a une tonalité résistance très claire, mais concrètement, il va venir à Paris organiser la résistance des intellectuels, parce que c'est à Paris que se déroulent les éléments les plus importants. Donc Aragon sera en 1942 un des organisateurs et un des fondateurs du Comité national des écrivains, qui va, avec Jean Paulhan, publier une revue sous la direction de Jacques Ducourt qui s'appelle Les Lettres françaises, et qui aura une grande histoire, et notamment une histoire aragonienne par la suite. Bon. Mais comme Aragon est domicilié, si je puis dire, en zone sud, une fois que les affaires sont arrangées avec Decour et Paulhan en zone nord, il repart en zone sud, où il organise là une revue d'opposition qui s'appelle Les Étoiles, qui a été publiée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au Cherche Midi. Elle est très intéressante parce qu'elle a une tonalité un peu différente. Elle a une tonalité zone sud. Zone sud, il n'y a pas encore les Allemands qui gouvernent tout. Zone nord, les Allemands sont là, omniprésents. Et par conséquent, la réaction à la situation est un peu différente en zone sud et en zone nord. Il y a une tonalité différente dans les articles de ces deux publications. Donc les Lettres françaises paraissent en zone nord. Malheureusement, Pulitzer et Decour vont être pris et fusillés par les Allemands, donc il va y avoir des complications pour trouver des successeurs. Mais c'est Claude Morgan qui assure la succession et les Lettres françaises vont finir par reparaître. Et en zone sud, les choses se passent mieux, il n'y a pas de chute, comme on disait à l'époque, et donc les Étoiles paraissent jusqu'en 1944, à la fin de 1944. Voilà. Et elles vont acquérir une très grande autorité. Aragon, résistant, n'est pas le seul rédacteur des Étoiles, bien loin de là, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains de la zone sud qui contribuent avec lui à ce travail. Mais d'autre part, les Étoiles, cette publication, c'est l'émanation de petits groupes de résistance qui s'appellent une étoile. Une étoile comporte 4 personnes ou 5 personnes au maximum, dont une seule des 4 ou des 5 est en relation avec l'étoile à côté qui comporte aussi 4 ou 5 personnes et ainsi de suite. Ce qui fait que s'il y a une chute, c'est très compliqué de coffrer tout le monde. Voilà. Alors, les étoiles dont Aragon s'occupe concernent essentiellement les milieux des intellectuels, c'est-à-dire des professeurs de lycée, de collège, d'université, des journalistes qui travaillent dans la presse de collaboration mais qui fournissent des renseignements, des médecins. C'est très important parce que les médecins seront utilisés par les maquis, le FTP en particulier, pour soigner les blessés, par exemple. Et quand on fait la guerre, il y a des blessés, donc il faut leur porter un secours approprié. Des juristes et naturellement des écrivains. Bon. Et par conséquent, en fait, ce travail des étoiles, progressivement, dans le temps, c'est beaucoup plus lent qu'on ne pense, mais ça fait boule de neige, finit par avoir un énorme retentissement. Et la puissance du réseau d'Aragon dans les milieux intellectuels en 1944 est très considérable. Bon, voilà comment Aragon a organisé, de son point de vue, son travail de résistant. En ce qui concerne son œuvre proprement dite, il considérait qu'il ne pouvait absolument pas faire le coup de Barbus, qui avait publié un livre contre la guerre en 1915, c'est-à-dire Le Feu. Et donc sa poésie est une poésie de contrebande, hein, que les gens multiplient eux-mêmes, les mettent dans la boîte aux lettres, les mettent dans la poche du voisin, etc. Plus que des choses qui sont imprimées, on ne peut pas imprimer officiellement. Les quelques tentatives d'impression de textes dans les revues ont été pourchassées par la censure de Vichy et donné lieu à des incidents qui entraînent la suspension de la revue. Donc les textes de résistance sont des textes qui se passent comme ça, clandestinement, de la main à la main.
Alors, ça va mener, bien sûr, à la libération, avec cette période exceptionnelle du Conseil national de la résistance. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là et après la libération ?
Eh bien, à la libération, Aragon revient du sud de la France et là, très brièvement, il reprend la direction du journal Ce Soir qui est ressorti pendant l'insurrection parisienne, d'ailleurs. Bon. Mais il se trouve qu'Aragon est à cette époque, il est malade physiquement, et puis il sait très bien que le travail de direction d'un journal comme ce soir, c'est tout à fait épuisant, et il ne souhaite pas reprendre la direction de ce soir. En fait, Aragon souhaite se reposer un peu, ce qui est légitime, et surtout il souhaite reprendre une activité littéraire telle qu'il avait pu l'avoir avant la direction de ce soir. Or, en même temps, Jean-Richard Bloch, qui a passé la guerre, une grande partie de la guerre à Moscou, il était parti à Moscou parce que sa vie était menacée en France, et à Moscou, il a tenu des chroniques à Radio Moscou pour inciter la France à résister et donner des nouvelles du front russe. Jean-Richard Bloch est de retour. Sa famille a été absolument victime de nazis, sa fille a été décapitée, son neveu a été fusillé, son gendre a été assassiné, sa mère a été brûlée, etc. Bon, donc il revient dans une situation de détresse familiale particulière, et en même temps il ne veut pas baisser les bras, et donc c'est lui qui reprend ce soir. Et pendant ce soir, Aragon donc se retire de la direction du journal ce soir. Il ne reprendra ce soir qu'en 1947, lorsque Jean-Richard Bloch, épuisé et malade, meurt brutalement. Alors à ce moment-là, Aragon reprend la direction de ce soir. Entre-temps, il a eu le temps de voir comment les espérances de la résistance ont commencé à se dissoudre. Et puisqu'on parle des chroniques d'Aragon, je suis en train de préparer la suite des chroniques d'Aragon de 1944-45, notamment une série qui s'appelle « Parlons français », qui met les points sur les i sur ceux qui commencent, disons, à trouver des accommodements avec ceux qui ont collaboré, à excuser. Alors on utilise le fait qu'il y a eu quelques excès à la libération, c'est vrai, bon. Mais surtout, on essaye de sauver la mise aux principaux collaborateurs, aux décideurs. Par exemple, on abandonne les miliciens qui ont du sang sur la main en pagaille et on se détourne de ceux qui ont donné les ordres. Bon, on fait aussi un sort très intéressant, ce qu'on appelle les vichisto-résistants, c'est-à-dire du personnel de Vichy qui se trouvait donner des gages à la résistance en 1944, très très tardivement, pour assurer leurs arrières. Bon, à qui on peut quand même reprocher des tas de choses épouvantables faites dans le cadre de leur fonction auparavant, et qui arguent de ce qu'ils ont pu faire, n'est-ce pas? Je ne dis pas cacher un juif parce que ça c'est trop ridicule, mais rendre quelques services à quelqu'un pour dire « mais non, j'étais du bon côté, et c'est à l'insu de mon plein gré que j'ai dû faire ce qu'on me reproche ». Voilà. Donc Aragon montre qu'il y a quand même, à partir de 1945, un balancier qui part dans l'autre sens, au niveau dans la presse, pour blanchir une partie des gens qui sont responsables. Bon. Et aussi pour incriminer des résistants sous prétexte qu'il y a par-ci, par-là, ce qu'on peut appeler des excès. Voilà. Bon. Et ensuite, à partir de 1947, il reprend la direction de ce soir, mais là, sa présence est beaucoup plus une présence directoriale qu'une présence par les textes. Et par conséquent, c'est moins intéressant. Aragon donne davantage de textes aux lettres françaises parce que les affaires littéraires, je crois, requièrent davantage son intérêt et son souci.
Alors justement, les lettres françaises, cette autre publication, est-ce que ça montre une autre facette de Aragon ?
Alors c'est peut-être la facette principale parce qu'il renoue avec ce qu'il avait fait pendant les 10 premières années de sa vie surréaliste et dadaïste de 1920 à 1930. Et puis la saison, si je puis dire, des lettres françaises va durer de 1953 à la fin des lettres françaises en 1972, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Et là effectivement, Aragon apparaît comme un personnage qui domine parfaitement le champ littéraire et qui peut donner sa pleine mesure. Si l'on peut dire... Quand Aragon dirige ce soir, il met en œuvre la politique du Parti communiste. Bon, il la met en œuvre de façon tout à fait admirable au niveau de la pugnacité, de la rhétorique, de l'information, mais ce n'est pas lui qui crée cette politique, ce n'est pas lui qui en est l'inventeur. Lorsqu'il met la main sur les lettres françaises en 1953, et on voit personne dans l'entourage du Parti communiste qui pourrait le remplacer dans cette fonction, alors progressivement, peu à peu, il devient l'inventeur d'une politique dans le domaine culturel et artistique. Et ça, c'est très intéressant. D'abord, il s'entoure d'une pléiade de gens qui sont des gens de premier plan, par exemple Georges Besson, Georges Sadoul, André Wurmser, Hubert Join, Pierre Dex, Pierre Gascard et des tas d'autres. Bon. Mais surtout, il a une politique d'ouverture sur la diversité du champ culturel, du champ littéraire, du champ artistique, du champ cinématographique. Bon, par exemple, il accueille très volontiers le nouveau roman. C'est quand même un roman qui n'a pas une tonalité sociale très, très marquée. Mm-hmm. Bien que, de temps en temps, par le jeu des objets qui sont présentés, on peut aussi montrer la vie d'un ménage ouvrier. Bon. Il y a une ouverture à la peinture abstraite, donc ce n'est pas forcément la peinture réaliste socialiste telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire Boris Stanislavski, Fougeron ou des choses comme ça. Bon. Il ouvre sur les tendances nouvelles du cinéma, Godard, Truffaut, Rivette et bien d'autres. Tous les grands cinéastes français ont été très bien reçus et très bien soutenus dans les lettres françaises. Pas seulement les cinéastes français, d'ailleurs, tout le cinéma mondial progressiste par l'intermédiaire des connaissances de Georges Sadoul. Voilà. Il ouvre aussi sur la musique. Tous les grands musiciens ont droit à des articles, à leurs œuvres dans les lettres françaises. Bon. Et ensuite, il ouvre les lettres françaises sur l'ensemble du champ littéraire et culturel mondial. Alors, ça concerne la littérature du Nord soviétique, parce qu'Aragon aime beaucoup la littérature soviétique, et il veut aussi montrer la diversité de cette littérature soviétique, mais ça concerne aussi la littérature caraïbe, américaine, d'Amérique latine, d'Afrique, bon, toutes les choses qui sont intéressantes, et il offre quand même un asile à tous les écrivains qui sont pourchassés, par exemple Nazim Hikmet, par exemple Ritsos. Ces gens-là trouvent quand même dans les lettres françaises quelque chose qui les fait connaître, qui les soutient, hein, qui quand même leur rend service. Voilà. Enfin, en concernant la littérature soviétique proprement dite, Aragon dirige une collection de traductions chez Gallimard. Il publie les meilleurs écrivains de langue russe en ce qui concerne la qualité de la langue et la qualité des romans. Et on peut dire qu'il joue un rôle qui n'est pas négligeable dans les affaires internes à l'Union des écrivains soviétiques, dans la mesure où lui, il promotionne certains écrivains qui sont publiés dans sa collection. Et ça joue un rôle qui n'est pas négligeable dans les affaires internes à la littérature soviétique. Je pense qu'un jour, il y a des gens qui étudieront cela. Pour ma part, je l'ai repéré de façon indiscutable. Donc les lettres françaises sont un élément important d'Aragon, inventeur d'une politique culturelle qui finalement sera celle que le Parti communiste a adoptée.
Eh bien, alors en effet, on voit surtout ces nouveautés. Ça me faisait penser, quand vous parliez de la littérature soviétique, qui est aujourd'hui en fait assez largement méconnue. Je recommande un ouvrage magnifique qui s'appelle Le Premier Maître de Tchingiz Aitmatov. Si vous arrivez à le trouver dans des puces, vous verrez, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, en une minute maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait dire maintenant pour nous dire, voilà, Aragon, c'est le genre Aragon journaliste, c'était ça.
Je crois qu'Aragon est un homme de combat. Voilà. C'est un homme de combat parce que c'est un homme qui est dans la vie, dans le mouvement, et est un homme qui n'a jamais refusé de prendre position sur quelque chose. Par exemple, on sait qu'à la fin de sa vie, il était très dépité des atteintes à la démocratie telles qu'il le ressentait en Union soviétique. Pendant que ce pays était menacé de guerre, qu'il n'y avait pas la parité militaire, il voulait la défendre et peut-être il ne accordait pas une grande importance à certains éléments. Mais dès que la parité militaire a mis l'Union soviétique à l'abri d'une attaque surprise ou d'une destruction, il est beaucoup plus sensible à des problèmes de démocratie parce qu'il pense que c'est préjudiciable à l'idéal du socialisme et que ça pénalise ceux qui, dans le monde entier, hein, se trouvent défigurés dans leur combat par l'exemple soviétique. Et il ne cesse de rectifier avec ses moyens ce qui se passe là-bas. D'où sa défense de certains écrivains soviétiques comme Sinyavsky et Daniel, qui ont été honteusement condamnés pour des choses ridicules, ou bien sa défense des écrivains soviétiques, des écrivains tchécoslovaques en 67-68.
Voilà. Eh bien, merci François Échard. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, prenez connaissance du Aragon journaliste. À très bientôt. Au revoir.